Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et je vous remercie de prendre part au grand titre du jour en ce mardi 28 juin. Veuillez noter que les grands titres du jour concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Aujourd'hui, il est question de Civitas qui se lance dans une aventure politique, de la Cour suprême américaine qui réaffirme le droit à l'IVG, du sexe robotisé, de l'aide médicale à mourir contestée, des enfants sacrifiés. Et bien sûr, mesdames et messieurs, la bonne nouvelle du jour. Débutons par cet article qui a été publié sur la plateforme du journal Le Figaro et qui s'intitule « Les catholiques traditionnalistes de Civitas forment un parti politique ». Et oui, voici ce que nous dit Le Figaro. L'institut classé à l'extrême droite pourrait soutenir un candidat en vue de 2017, une décision qui sera arrêtée au mois de septembre. Le paysage politique de l'extrême droite s'étoffe. Comme révélé par Le Parisien ce mardi, l'association catholique traditionnaliste Civitas se revendique désormais comme un mouvement politique inspiré par le droit naturel et la doctrine sociale de l'Église catholique. Son programme, rechristianiser la France au travers d'une reconquête identitaire et spirituelle. Bénéficiant jusqu'ici d'un simple statut associatif, l'organisation réputée pour ses positions et son activisme musclé a discrètement obtenu le statut de parti politique le 23 avril. L'avis a été publié au journal officiel. Eh bien, mesdames et messieurs, je trouve ça intéressant qu'il y ait des gens de droite qui vont justement déclencher des débats, susciter des débats sur des questions que certains partis ou certains politiciens plus conservateurs n'oseront pas discuter. Vous savez, il y a des gens qui partagent nos valeurs dans les différents partis conservateurs à travers le monde, mais ce qui se produit, mesdames et messieurs, c'est que il y a comme une loi non écrite qui dit, ben oui, on défend certaines valeurs, mais on n'ose pas l'en parler parce que c'est pas populaire, puis ça nous empêcherait d'être élus. Mais eux, Civitas, leur motif, c'est de mettre leur agenda, leur discours à l'avant-plan de l'espace public. Et ça, mesdames et messieurs, c'est très louable. J'aurais souhaité qu'il y ait ce genre de mouvement ici, au Québec, mais que voulez-vous? Ça n'est pas demain la veille. La Cour suprême américaine réaffirme le droit à l'IVG. L'IVG, c'est l'interruption volontaire de grossesse ou ce qu'on appelle communément un avortement. On en parle sur la plateforme du Figaro et on en parle également sur la plateforme du 98.5. Débutons par ce qui est dit sur la plateforme du Figaro dans un article intitulé « La Cour suprême américaine réaffirme le droit à l'IVG ». La Cour suprême des États-Unis a rendu aujourd'hui une décision réaffirmant avec force le droit des femmes à se faire avorter après qu'un nombre croissant d'États américains ont pris des mesures restreignant l'interruption volontaire de grossesse. Sur la plateforme du 98.5 FM, on nous dit ceci dans un article intitulé « La Cour suprême des États-Unis réaffirme le droit à l'avortement ». Cette réglementation exigeait que les médecins effectuant les avortements aient des privilèges d'admission dans les hôpitaux voisins et forçait les cliniques à respecter les mêmes normes que les centres hospitaliers en matière de chirurgie d'un jour. Eh bien, mesdames et messieurs, on a toujours dit que l'avortement, ça devait être légalisé. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que les filles utilisent, par exemple, un cintre, un support en broche pour s'auto-avorter. On voulait que ça puisse se faire dans un environnement qui requiert la dignité. Maintenant, ce que certains États ont fait, c'est qu'ils ont voulu s'assurer que les normes étaient à la hauteur de l'opération. Ce que je souhaite, et vous savez que moi, je suis pas d'accord avec l'avortement, mais ce que je souhaite, c'est que les changements de loi qui vont être opérés à cause de la décision de la Cour suprême n'amènera pas à ce que ces avortements soient faits dans des conditions encore plus horribles qu'elles ne le sont maintenant. Sur le 98.5 FM, eh bien, on a la chroniqueuse Sylvie Lavallée qui nous parle de sexe robotisé. Et vous pouvez trouver cet échange avec Benoît Dutrisac dans un document qui est intitulé « Le sexe robotisé, la fin des rapprochements humains ». Point d'interrogation. Essentiellement, ce qu'elle dit, Mme Lavallée, et c'est matière à réflexion, elle va mentionner que, puisque maintenant ce n'est plus avec une poupée gonflable qu'on peut avoir des relations sexuelles, mais avec un robot qui ressemble énormément à un être humain, à une femme en l'occurrence, eh bien, on est en train de prêter des caractéristiques humaines à un objet. Et là, ça veut dire qu'on est rendu à un autre niveau. Et ce que ça produit d'un point de vue comportemental, c'est que l'homme qui utilise cette poupée-là ou ce robot-là a envie que sa poupée l'aime. Il se développe des liens, il se développe une affection, mais une affection qui n'est pas normale. Et ce que ça produit également, c'est l'industrie de l'enfermement. En d'autres mots, je n'ai plus besoin d'être en relation avec quelqu'un pour gagner son cœur, pour la charmer ou pour m'unir à elle. Non, j'ai immédiatement au besoin des contacts sexuels avec quelqu'un qui ne manifestera aucune opposition ou avec quelqu'un qui n'exigera pas qu'il y ait une relation qui s'installe avant qu'on en arrive là. Et même, je devrais même pas dire avec quelqu'un, mais avec quelque chose. Alors, ce qu'elle soulève, et je trouve ça très pertinent, ça va enlever chez certaines personnes des compétences et des habiletés relationnelles. Parce qu'on a un objet qui prend le rôle d'une personne pour nous autosuffire. Ça me rappelle un passage qui nous dit que chacun va suivre sa propre voie. Ésaïe 53:6. Et où s'en va l'humanité, mesdames et messieurs? On est en train de déshumaniser les relations humaines. Et c'est là qu'il est grave. Elle nous parle aussi sur cette bande audio de sélection embryonnaire. Je vous invite à aller sur ericlantier.net. Vous avez le texte « Le sexe, robotiser la fin des rapprochements humains ». Vous cliquez sur le titre et vous allez avoir accès à la bande. Maintenant, sur la plateforme du journal Le Devoir, la contestation annoncée se matérialise. Et oui, je vous l'avais dit, mesdames et messieurs, ce ne sera pas suffisant. La loi sur l'euthanasie fait des malheureux et on veut l'élargir pour que justement toute personne qui subit des souffrances intolérables puisse y avoir accès, qu'elle soit en fin de vie ou non. Et une fois que ça va passer, ça va être toute personne malade qui n'accepte pas sa maladie, son handicap, etc. Mais là, on est à cette étape-là. Voici ce que nous dit Le Devoir. J'aimerais, si mes souffrances deviennent intolérables, être en mesure de prendre une décision définitive sur la quantité de souffrances endurées, explique Julia Lamb, britannico-colombienne de 25 ans, atteinte d'amyotrophie spinale, une maladie neurodégénérative progressive. Les opposants à C14 l'avaient prédit, et c'est exactement ce qui est arrivé lundi. Une malade qui estime avoir été exclue du régime d'aide médicale à mourir, mise en place par Ottawa, en conteste la constitutionnalité devant les tribunaux. Alors, c'est à suivre, mesdames et messieurs. Sur la plateforme du Journal de Montréal, maintenant, des milliers d'enfants sacrifiés. Eh bien, c'est un article de Richard Martineau qui nous parle des enfants qui ont fréquenté une école juive clandestine, qui n'enseignent pas les matières académiques à l'école, mais simplement la Torah et tout ce qui concerne la religion juive. Le compromis que le gouvernement est en train d'élaborer, eh bien, c'est que les parents puissent enseigner à la maison les matières académiques et que l'école enseigne la religion. Pour ceux qui m'ont suivi, soit sur mon blog ou qui m'ont suivi dans des conférences, etc., sur la place publique, j'ai toujours milité en faveur d'une école qui correspond aux valeurs et aux croyances et aux principes des parents. Qu'elle soit juive, qu'elle soit bouddhiste, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit catholique, qu'elle soit protestante. Mais jamais au détriment de la formation académique, jamais au détriment des normes du gouvernement en matière d'espace, en matière de locaux, en matière d'organisation, en matière de qualité. Jamais. Pour moi, c'est important qu'il y ait des enseignants qualifiés qui soient là, qu'il y ait une équipe solide pour donner la meilleure éducation pour que les enfants puissent être en mesure de rencontrer les critères du gouvernement. En matière de foi, en matière de principe, en matière de valeur, ça regarde les parents. Alors, ce qui est malheureux dans tout ça, mesdames et messieurs, c'est que l'opinion publique va devenir défavorable avec les écoles confessionnelles à cause des cas comme ça. Et on va faire fi de plein d'écoles confessionnelles qui réussissent très bien, qui ont une bonne cote, qui forment de bons élèves. Et malheureusement, à cause d'une école clandestine, on est en train de souiller l'opinion publique. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux, mesdames et messieurs. Et encore une fois, je ne suis pas contre que les communautés juives se donnent des écoles. Non. Je veux vraiment être clair là-dessus. Ce que je suis contre, c'est que l'école ne respecte pas le régime pédagogique du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Je vous invite à lire cet article-là. Et terminons par une bonne nouvelle, mesdames et messieurs, comme c'est notre habitude. L'industrie canadienne de la fabrication aérospatiale devrait décoller en 2017. C'est ce que nous apprend Newswires. Le carnet de commandes de l'industrie canadienne de la fabrication aérospatiale s'allonge et la production devrait s'accroître à partir de 2017 selon le plus récent numéro des perspectives industrielles du Conference Board du Canada. Les bénéfices avant impôts de l'industrie devraient diminuer légèrement en 2016 pour se situer à 1,5 milliard avant d'augmenter progressivement jusqu'en 2020. La production de l'industrie devrait reculer de 0,8% cette année avant de rebondir de 4% en 2017. Malgré le ralentissement économique mondial actuel, les nouvelles commandes d'avions commerciaux continuent de dépasser le nombre d'appareils livrés, ce qui fait en sorte que le carnet de commandes s'allonge, explique Carlos Murillo, économiste au Conference Board du Canada. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, mesdames et messieurs, puisque la région de Montréal se démarque, se distingue par ses compétences et son expertise en matière aérospatiale. Donc, avant de vous quitter, mesdames et messieurs, laissez-moi vous rappeler que les liens reliés aux articles cités dans le cadre de cette émission sont accessibles sur Décentrer le discours et sur ma page Facebook via le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, bonne lecture, bonne réflexion et bons échanges avec les gens de votre entourage. Pour ma part, je vous dis à demain.